Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité, le comédien Francis Huster. Il vient pour deux livres qu'il a écrits consacrés à Molière coup sur coup. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. Et puis pour clore l'émission, Marc-Antoine Lebray. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe.
C'est votre dernière aujourd'hui Clément, on a un petit peu la petite larme à l'œil. Tous les jours Bruno Donnet, je vous salue, bonjour.
Bonjour Philippe.
Et tous les jours Bruno, vous observez ici les grandes figures médiatiques. Hier soir, François Hollande était l'invité de C'est à vous, vous l'avez donc regardé, mais vous avez eu très peur. Car vous avez craint qu'il ne quitte jamais plus le plateau de l'émission.
Oui, Philippe, et du reste, je me demande même s'il n'y est pas encore. Alors, je vous raconte, François Hollande vient de faire paraître un livre. Il y désingue toute la classe politique et en assure, ces jours-ci, la promotion dans les médias. À ce titre, il était donc hier l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine, mais dès son arrivée, il était tellement content d'être là qu'oubliant le Covid et les gestes barrières, il a voulu lui serrer la main.
Bonsoir François Hollande, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Pardon, maintenant on n'a plus le droit.
Car contrairement à Emmanuel Macron, qui n'aime ni la télévision ni les journalistes, François Hollande les adore. Et quand il est sur un plateau de télé, il devient indélogeable. Alors, je vous aurais bien proposé, Philippe, une petite analyse politique de son interview fleuve. Je vous aurais volontiers raconté qu'après avoir vanté le sérieux et pointé le poids terrible de la dette...
Je pense que ce qui va faire la différence dans cette campagne présidentielle, c'est le sérieux. Je pense que les Français sont très inquiets du monde et il y a de quoi. Une dette publique qui est considérable.
L'ancien président de la République a tout aussi sérieusement proposé cette mesure incroyable.
Et puis, je pense, alors ça c'est une autre proposition, que lorsqu'on atteint 18 ans, il pourrait y avoir cette formule d'une dotation de 10 000 euros pour, bah, finalement, pour chaque jeune qu'il puisse commencer dans la vie avec un pécule.
Un pécule qui, sachant qu'il y a eu 768 000 enfants nés en France en 2004, alourdirait la dette de la modique somme de 7,68 milliards si on l'appliquait dès l'année prochaine. Mais bon, pas de ça ici, Philippe, un haro sur la politique, car notre prisme est uniquement médiatique. Et j'y viens. Alors figurez-vous qu'au terme de la première partie de son émission, Anne-Elisabeth Lemoine avait prévu de se débarrasser de François Hollande et d'accueillir en tête-à-tête sa prochaine invitée, Sylvie Vartan. Elle a donc remercié poliment l'ancien président.
Merci beaucoup François Hollande pour accepter notre invitation. Vous ratez Sylvie Vartan, François Hollande.
Seulement voilà, François Hollande a eu envie de s'incruster.
Ah non, mais si vous me demandez de rester, je reste avec Sylvie Vartan.
Personne ne lui avait demandé quoi que ce soit et surtout pas de rester. Mais il a donc fallu faire avec et résultat, après une page de pub, la deuxième partie de l'émission a débuté avec qui ?
Bonsoir chère Sylvie Vartan.
Bonsoir.
On est très heureux de vous accueillir aux côtés du président François Hollande. Merci d'être resté.
François l'incruste. Alors je vous l'ai dit, Philippe, François Hollande a une passion pour la télévision. Il est très régulièrement l'invité des JT et des émissions d'information. Bon, ça, c'est assez naturel. Mais si vous l'invitez sur la chaîne L'Équipe, par exemple, pour causer foot...
Il a été président de la République dans la vie. Il est ce soir exceptionnellement président de L'Équipe du soir. J'accueille tout de suite le président François Hollande.
Il est dispo. Il peut même vous donner, sans se tromper, le nom du prochain club champion.
Champion de France cette saison pour vous, Lille, Paris, Lyon ou Monaco?
Je pense que c'est Lille qui va l'emporter.
Ah ouais.
Oui.
Et si vous n'avez qu'un simple site internet, alors comme Combini, eh ben c'est pas grave. Il vient aussi et peut vous régaler de ses meilleures anecdotes.
Un jour, j'ai rencontré Charles Aznavour et je lui dis mais quel est aujourd'hui votre référence? Il me dit moi j'écoute les chansons de rap.
Enfin, si vous bossez à Automoto sur TF1, eh bien vous pouvez vous aussi solliciter l'ancien président de la République, car il est d'accord pour parler de tout, même de bagnole.
À l'Élysée, il y a un service très important qui est le garage. Et donc j'avais beaucoup d'affection pour les personnels, et notamment pour le chef de garage, qui me montrait la meilleure voiture possible pour mes déplacements.
Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà trouvé un invité pour demain, Philippe, mais si vous n'en avez pas, pas de panique, car si personne n'a retourné vos demandes, vous pourrez toujours solliciter François Hollande.
Il était venu dans l'émission, François Hollande, on le remercie, il était venu parler d'un livre illustré, La politique expliquée aux enfants, et la présidence expliquée aux enfants, et il avait été, comme d'hab, brillantissime. Merci beaucoup, beaucoup, Bruno Donnet, comme d'hab, brillantissime. À demain.
À demain.
Stéphanie Loire, votre programme, votre indispensable ce matin aux alentours de 10h30.
Aujourd'hui, je vous partage mes découvertes et mes crushs musicaux, dont un groupe que vous aimez bien,
j'adore.
Il me semble, qui s'appelle Boost 3000, c'est bien zinzin.
Voilà, c'est bien
bien zinzin. Clément Le Saff, pareil.
Eh ben nous, on va parler des Français qui ont du talent, ceux d'Ubisoft qui ont sorti leur dernier jeu et c'est une très belle réussite. Et politique aussi, voilà. On va en parler.
Juste un mot, Boost 3000, ils sont français, ils ont du talent.
Toulousains.
Dans un instant, on sera avec Francis Huster, mais d'abord musique avec Amel Bent et son chant des colombes. C'est tiré de son dernier album qui s'appelle Vivante, c'est sur Europe 1.
Je me dis souvent, j'ai pas trop le choix. À quoi bon chercher si c'est comme ça? Un jour j'ai trop, un jour j'ai pas, un jour de trop, un jour je sais pas, un jour de plus et je m'oublie moi. Ce refrain qui m'emmène insouciante, je me rappelle un instant, j'oublie ma peine à chacun de mes pas.
Le chant des colombes, c'était Amel Bent sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Francis Huster.
Bonjour.
Faut-il vous présenter? Vous êtes comédien, vous êtes presque un ambassadeur. On va comprendre de qui en voyant votre actualité. Poquelin contre Molière, livre que vous avez écrit qui vient de sortir chez Armand Collin. Et comme ça ne suffisait pas, ce dictionnaire amoureux de Molière. Livre écrit par vous également, qui vient de sortir lui aussi au même moment dans la mythique collection de chez Plon. Un seul sujet, j'avais encore jamais vu ça, quelqu'un qui sort deux livres au même moment, si j'avais déjà vu, mais deux livres au même moment consacrés au même sujet, pas vu, sauf que il y a une différence, il y a une fiction. Poquelin contre Molière, c'est de la fiction, c'est un dialogue imaginaire, et le dictionnaire amoureux de Molière, évidemment, c'est plutôt de la recherche et votre avis. Et vous aviez déjà publié, Yann, en 2019, Molière, mon Dieu, ça suffisait pas?
Non, ça suffisait pas parce que on arrive dans la dernière ligne droite, celle du Panthéon, puisque le 15 janvier 2022, on va fêter le 400e anniversaire de la naissance de Molière.
Je vous interromps. Molière, mon Dieu, ce livre publié en 2019 débutait par une lettre ouverte au président de la République. Vous demandiez à Emmanuel Macron que Molière entre au Panthéon. Avez-vous une réponse? Avez-vous été entendu?
Je pense que j'ai été écouté.
Ah.
Très sérieusement.
Vous étiez venu me parler de ce livre et vous m'avez dit, à ce moment-là, je n'ai eu aucune réponse du président.
Oui, donc, si. Et je pense que dans les semaines qui vont venir, la décision négative ou positive sera prise. Voilà, on est vraiment là. Je vois déjà le fil de la ligne d'arrivée et j'espère que le président ouvrira les portes de la gloire de la République à Molière. Et je dis bien à Molière et pas à Jean-Baptiste Poquelin.
Vous me direz après quelle différence vous faites entre Molière et Poquelin, puisque c'est un titre de ce livre. Vous me dites, la réponse va arriver dans quelques instants. Vous voulez garder le suspense ou vous ne savez pas
si
elle sera...
Non, dans quelques semaines. Dans les semaines à venir.
Mais vous savez ou est-ce que vous ne savez pas si elle sera positive ou négative? Ou alors vous savez qu'elle est positive, vous n'avez pas le droit de le dire. Je faisais un petit sourire, donc je me dis, il ne veut pas
sourire,
le dire.
Mon sourire, c'est que je fais confiance vraiment au président de la République, parce que c'est tellement important justement en ce moment d'unir les Français et de les unir derrière ce qu'ils ont de plus courageux, le Molière, le rire et l'audace de dénoncer vraiment l'insoutenable dans notre pays depuis 4 siècles. Il n'arrête pas de le dénoncer parce qu'il est toujours vivant.
Vous aviez qualifié de honteuse la manière dont l'éducation nationale parlait et parle de Molière aux élèves. Et vous ajoutez, ce qui est dit dans les petits classiques est un scandale.
Oui.
On l'enseigne mal, Molière ?
Oui, parce qu'on enseigne Jean-Baptiste Poquelin et pas Molière. Alors je vous explique, c'est très simple à comprendre. On ne peut pas faire une encyclopédie du cinéma sans mettre sur la couverture Chaplin. Or, ce n'est pas Chaplin qu'on met, c'est Charlot. Donc ça veut dire qu'on a été voir, quand on était gamin, les films de Charlot, pas les films de Chaplin. Chaplin, c'est celui qui écrit le scénario, qui dirige, qui est le metteur en scène. On l'a jamais récompensé à Hollywood, Chaplin. On a attendu qu'il soit presque sur son fauteuil roulant. Quant à Charlot, la marionnette inventée par Chaplin, c'est lui le véritable héros. C'est exactement ce que Poquelin, Jean-Baptiste Poquelin, avocat, sûr de lui, tapissier du roi, décide tout d'un coup d'abandonner cette fonction pour créer sa marionnette Molière. C'est vraiment coupé en deux. Et on dit d'ailleurs les œuvres de Molière, on dit pas les œuvres de Poquelin.
Vous avez raison.
Parce que Molière, en marionnette, comme Charlot pour le cinéma muet, a inventé l'art de l'acteur. Au cinéma, Chaplin invente le gros plan, le visage qui devient un jardin d'âme où toutes les émotions peuvent passer, le regard dans la profondeur de son regard. Il invente ce qu'aucun autre acteur du cinéma muet est capable de faire, comme ce pantin de Buster Keaton qui est génial, mais c'est de la pantomime. Et puis, Poquelin est trahi par Molière, qui s'empare du texte, du personnage pour créer le rôle, ce qu'il faut bien comprendre.
Non mais dites pas, Poquelin est trahi par Molière, c'est comme si on disait Gainsbourg est trahi par Gainsbard.
Mais justement, c'est exactement la même chose, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que la trahison de l'acteur est née avec Molière. J'explique, l'auteur a une respiration quand il écrit le texte, une respiration, et il écrit des personnages, comme dans toute la littérature, chez Dickens, chez Goethe, des personnages. Et puis, un être vivant, homme ou femme, vient, prend ce texte et le personnage, il n'existe plus. Il crée comme une statue un rôle et ce rôle, au lieu d'être dans la glaise, il est dans ses silences, dans ses regards, dans l'émotion qu'il y met. Le rôle n'a rien à voir avec le personnage. Et l'éducation républicaine s'est trompée. Elle s'est fourvoyée. Elle n'a cessé de parler des auteurs dramatiques comme s'ils étaient des écrivains de la littérature. Et jamais elle n'a fait le pas de passer la frontière et d'aller au rôle et aux comédiens.
Quelle énergie, Francis Huster, et quelle leçon. Vous restez avec nous. Lisa-Marie Marquez arrive. Vous aimez raconter ce qui se cache derrière les personnages. Elle va raconter ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. C'est le portrait préfame. Culture Média continue. Francis Huster est avec nous.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'acteur et écrivain Francis Huster. Il nous parle de ses livres Poquelin contre Molière et de son dictionnaire amoureux de Molière. On va mieux vous connaître, Francis, avec le portrait pré-fame de Lisa-Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa-Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Francis Huster. On vous a vu dans les plus grands théâtres, sur petit et grand écran. Vous avez une filmographie aussi importante que le nombre de pièces dans lesquelles vous avez joué. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Avant de commencer votre portrait, Francis Huster, permettez-moi d'abord de remonter le temps encore plus loin, bien avant votre naissance à Neuilly-sur-Seine. En 1912, vos grands-parents ont prévu de quitter la France pour rejoindre l'autre côté de l'Atlantique et ils ont un ticket pour le Titanic. Sauf qu'avant le départ, votre grand-mère annonce à votre grand-père qu'elle est enceinte et qu'elle risque d'être malade durant la traversée. Et votre grand-père renonce donc au voyage sur le Titanic.
Incroyable, j'ignorais.
Complètement fou, incroyable. Et je m'en suis rendu compte uniquement quand j'ai été voir le Titanic avec maman et qu'elle s'est mise à pleurer au bout de 10 minutes quand elle a vu DiCaprio monter sur le Titanic. Et elle m'a avoué enfin la vérité parce qu'elle voulait cacher son âge. Et comme tout le monde savait évidemment l'année du Titanic, elle a fait croire qu'elle était née après.
C'est 3-4
ans après à mon père.
Histoire.
C'est incroyable.
Les souvenirs d'enfance qui ressurgissent. Vous avez mal de mer maintenant ?
J'ai toujours le mal de mer. Ah non, mais c'est vrai. Bah parce qu'en plus, j'ai souvent de l'otilite, c'est les cristaux de l'oreille qui se cassent. Ouais. Mais j'ai fait des très belles croisières avec le Ponant, tiens, justement.
Francis Huster, enfant, c'est cette même grand-mère qui vous emmène au cinéma en cachette le jeudi après-midi. Vous découvrez Marilyn Monroe, Bourville et Jean Gabin, votre dieu vivant.
Oui. C'est votre dieu vivant, Jean Gabin?
Ah oui,
je crois que c'est Jouvet, moi. Quand non, on vous lit, c'est Jouvet.
Jouvet, c'est mon dieu en tant que comédien, qu'artiste, mais dans ma vie, c'est mon héros, c'est
le
Jean
héros
Gabin.
De l'enfance, c'est
Gabin. Quel génie.
Vous êtes un enfant modèle, premier de la classe. À l'école, vous êtes ami avec tous les cancres parce que vous leur faites leurs devoirs le soir. Vous êtes exemplaire, vous ne faites jamais de bêtises ou juste une seule. Vous vous cachez dans le couloir tous les soirs pour faire peur à votre sœur en faisant le monstre.
Muriel, oui, on était dans le couloir avec mon frère aîné Jean-Pierre et puis on la taquinait. Mais Muriel était en fait l'intellectuelle de nous trois. C'est elle qui était passionnée et puis tout de suite un pouvoir politique de se battre pour les femmes, pour la liberté. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour mon frère et ma sœur.
Enfin, vous adorez lire et écrire. Vous écrivez vos propres livres d'histoire avec un grand H en réalisant des collages. Et vous aimez aussi écrire la suite des histoires que vous lisez. Par exemple, Moby Dick, vous avez imaginé une suite.
Ah oui, mais Moby Dick, je le racontais même à Elisa et Toscane quand elles étaient petites. Alors Moby Dick, papa, et je faisais tout. Et puis il y avait mon héros aussi, Gregory Peck, et je trouve que Moby Dick est la métaphore de toute notre vie. Se battre jusqu'au bout, on sait qu'on finira sous l'eau, mais se battre jusqu'au bout.
Francis Huster, vous n'êtes absolument pas issu du monde du spectacle. Votre père est directeur commercial chez Lancia, les voitures, et votre mère couturière. Enfant, d'après votre père, vous allez devenir chirurgien. Sauf que le destin va en décider autrement. Déjà, lorsque vous avez 12 ans, le comédien Gérard Philippe meurt brutalement. Votre grand-mère l'apprend dans le journal et elle vous dit « tu le remplaceras ».
Et dingue.
Puis... oui, complètement dingue. Dans la rue, c'était un vendeur de journaux. On venait de sortir du cinéma et...
Non mais c'est dingue, parce qu'on a souvent dit que vous étiez le nouveau Gérard Philippe.
Ah,
c'est pour
ouais,
ça que je trouve ça dingue.
C'est complètement dingue. C'est incroyable. Et c'est d'ailleurs quand j'ai... Je parlerai après juste un tout petit peu au moment de la Comédie française.
Et puis vous découvrez le théâtre quelques années plus tard par un concours de circonstances. Vous avez la jambe cassée après un séjour au ski. Vous ne pouvez plus pratiquer le sport, le football avec vos camarades de lycée. Au lycée Carnot, votre prof de français vous incite à prendre des cours de théâtre. En plus, dans votre famille, on trouve que c'est une bonne chose, les cours de théâtre, que ça va vous donner de l'assurance pour votre futur métier de médecin lorsque vous devrez annoncer aux patients qu'ils sont atteints d'une grave maladie.
Oui, c'était terrible. Et la chance, c'est qu'il y avait à l'intérieur du lycée Carnot un jeune stagiaire de la Comédie française, un peu comme DiCaprio. Florent ressemblait un peu à DiCaprio jeune, blond, alsacien, magnifique. Et il avait eu la chance d'être engagé comme professeur à l'intérieur du conservatoire municipal par Madame Annette Haas-Amburger, qui est la maman du futur Michel Berger. Et voilà, et comment j'ai commencé les premiers pas.
Et vous le suivez lorsqu'il fonde sa propre école, le Cours Florent. À l'âge de 17 ans, vous gagnez le concours des conservatoires municipaux, catégorie comédie moderne. C'est votre copain de classe, Jacques Weber, qui remporte la catégorie classique. Et vous êtes ainsi reçu au Conservatoire national d'art dramatique à quelques semaines de passer le bac. Et dès que vous apprenez que vous êtes admis, vous ne voulez plus passer le bac. Et ça contrarie vos parents, surtout votre père, fâche. Bah oui, lui qui ambitionne pour vous des études de médecine.
Bah oui, j'avais le premier bac déjà, et tout d'un coup j'ai été complètement hypnotisé par la force incroyable, justement, du métier d'acteur, de créer quelque chose. parce que vous avez omis évidemment le drame de ma vie quand j'ai été violé et où j'ai eu l'impression que j'allais mourir avec le couteau sous la gorge. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment changé de vie. Je pense d'ailleurs que la plupart des comédiens, des comédiennes ont eu un drame dans leur vie.
Ou une fêlure.
Une fêlure qui fait que tout d'un coup, la fissure reste et que tu te dis, bon ben écoute, hein, j'aurais pu mourir, allez hop, maintenant je réalise mes rêves.
D'un mot, vous aviez quel âge ?
J'avais 11 ans.
Très bon élève au conservatoire, vous excellez au théâtre dans la pièce Jacques le Fataliste. Vous
rappelez
les trois prix du conservatoire, oui. Comédie classique, comédie moderne et théâtre étranger, ce qui est extrêmement rare. Vous commencez à apparaître à la télévision dans Les Caprices de Marianne d'Alfred de Musset, puis au cinéma pour la première fois dans La Faute de l'abbé Mouret. Vous attirez l'attention de la presse. En 1970, Bertrand Poirot Delpech, journaliste au Monde, titre son article « Naissance d'un comédien ». Francis Huster, et il écrit « Retenez bien ce nom ». Il avait vu juste, la suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup, Lisa Marie. Vous voulez dire quelque chose
sur
la comédie française ?
Oui, je voulais dire que la troupe de Molière, la comédie française, créée en 1680, est exactement à l'image de la France. Elle a toujours été séparée en deux par ceux qui croyaient respecter le classicisme en jouant, comme on le dit, en phrasant, en faisant du théâtre. Et puis ceux qui se sont battus et qui ont été extraordinaires et qui ont révolutionné le théâtre.
Mais quel rapport avec ce qu'on disait précédemment ?
C'est
parce vous avez que juste envie de le dire.
J'ai juste envie qu'on comprenne que rien n'est limpide, rien n'est horizontal. Et c'est ça la grandeur de ce pays, c'est qu'on peut toujours dire tout ce qu'on pense.
Vous restez avec nous, merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Dans un instant, Culture Média continue à parler jeux vidéo. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Francis Huster, on parle de ces deux ouvrages qui sortent coup sur coup avant le 400e anniversaire de sa naissance. Ça sera en janvier prochain, en 2022. Poquelin contre Molière, c'est chez Armand Collin. Le dictionnaire amoureux de Molière, c'est chez Plomb. Vous prenez souvent les choses à rebours, plutôt ce qu'on raconte sur Molière, vous le prenez à rebours. Je vais commencer par le plus simple, vous dites que contrairement à sa légende, il n'est pas mort sur scène, ça vous l'affirmez. Parfois j'ai du mal à vous suivre, vous dites une chose et son contraire. Écoutez bien, Paris Match, Francis Huster le 5 juillet. Il faut dire la vérité sur sa vie. Molière a été empoisonné sur scène et il est mort après sa dernière représentation. Le même jour, la dépêche Francis Huster, on a aussi voulu faire croire qu'il avait été empoisonné. Il a été empoisonné ou il n'a pas été empoisonné ?
Bien sûr qu'il a été empoisonné. Ça a été, mais ça doit être une transcription. Donc, j'ai dû parler trop vite. Ouais. Un journaliste qui n'a pas compris. Je signifie le propos. Molière, c'est donc le comédien. Ouais. Quand on demande à tous les comédiens du monde comment vous voulez mourir, ils vous répondent tous sur scène, comme
même
Molière.
Pas forcément comédien.
Mais ça n'est pas Jean-Baptiste Poquelin qui est mort sur scène. C'est le personnage de Molière. Comme on peut dire que Charlot est mort dans Le Dictateur, puisqu'après on ne le voit plus. Donc,
mais après, Poquelin, il vivait.
Oui, Poquelin rentre chez lui empoisonné et il va mourir chez lui quelques heures après, rue de Richelieu. Donc ça veut dire que c'est la raison pour laquelle Boileau a pu dire au roi, sire, Molière est mort sur scène. Molière, c'est le comédien. Donc, mais c'est Jean-Baptiste Poquelin qu'on va enterrer. Donc au lieu de jeter, comme vous le faites, tous les comédiens à la fosse commune, baptisés ou pas, et qui renient pas leur métier, Poquelin, l'auteur, vous ne pouvez pas le jeter à la fosse commune. Donc vous allez être obligé de l'enterrer. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'ils ont détourné, évidemment, l'ordre royal pour le jeter quand même à la fosse commune.
Il est... Et alors, il y a une tombe de Molière aussi qui existe ou pas du tout ?
Il y a une tombe, mais c'est une mystification totale. C'est exactement... On peut dire que c'est comme... on a mis exprès la tombe de Molière et de La Fontaine côte à côte pour que les chrétiens qui viennent prier, au moins, il n'y ait pas de blasphème et qu'ils prient pour quand même un être qui est là, qui est le cadavre squelettique de
La
Fontaine.
Mais il y a quoi dans la boîte ? Il y a des os, il y a des reliques, il n'y a rien ?
Dans la boîte,
chose...
on peut faire comme on a fait sur certaines personnes, on peut ouvrir et puis constater que ça n'a rien à voir avec Molière.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'on va emmener au Panthéon si jamais il va au Panthéon ?
Ça, c'est la question magique. Elle est très simple. Quand on entre dans une église, on n'a pas Dieu, on a l'œuvre de Dieu et de son Fils. Quand on entre dans une synagogue, on n'a pas ni David, ni Moïse, on a leur œuvre. Et pareil pour le prophète dans une mosquée, ça veut dire que c'est l'œuvre qui va entrer au Panthéon. Et c'est la seule chose qui nous reste, puisque le lendemain de la mort, donc de Poquelin, et Molière en même temps, puisqu'ils sont deux dans un seul homme, ordre royal a été donné que toute trace de l'impie Molière disparaisse. Et ce qui est arrivé, ça n'a jamais existé dans l'histoire. La seule chose qui nous reste, c'est sa petite signature dans l'acte de naissance de l'illustre théâtre, sa première troupe. Sinon, tout a disparu. Et le soi-disant fauteuil de Molière, je suis dans le couloir de la Comédie Française, salle Richelieu, avec Pierre Duc, je lui dis, mais vous savez très bien que ce fauteuil n'est pas le fauteuil de Molière. Mais bien évidemment, mais c'est le fauteuil de c'est le barbier, là où il allait s'asseoir. Donc on peut dire que c'est quand même le fauteuil de Molière. Je dis non, c'est le fauteuil, il a posé ses fesses.
Gardez des forces pour la fin de l'émission, il y aura aussi des imitations. Clément Le Saff, bonjour.
Bonjour Philippe.
Il y a des morts dans ce jeu vidéo ?
Ah, il n'y a que ça.
On parle d'un jeu vidéo,
il y a tout.
Qui est le dernier jeu du studio français Ubisoft.
Ouais, un jeu qui est sorti il y a 2 semaines, mais que j'ai pris le temps de bien tester en longueur, hein, parce que c'est un jeu qui est assez long. C'est Far Cry 6, dernier épisode d'une grosse licence d'Ubisoft. Hein. À chaque fois, le joueur est placé dans un décor exotique, et cette fois, c'est l'île fictive de Yara. Dans les Caraïbes, dirigé par le dictateur Anton Castillo. On incarne, nous, Dani Rojas, un ou une membre, c'est à choisir le sexe du personnage au début du jeu, de la guérilla qui tente de faire tomber Castillo.
J'ai comme projet de reconstruire le paradis. Un remède, le Viviro, le traitement anticancer le plus efficace du monde entier. Mais notre paradis a un prix. Ça, nos ennemis ne le comprendront jamais.
Tu veux que je tue Anton Castillo ? Tu es un dictateur qui a volé nos terres et qui a fait de nous des esclaves. Ça s'envisage, oui. La révolution n'est pas gagnée par ceux qui ne craignent rien.
C'est par ceux qui sont craints.
Bienvenue chez Libertad, Dani.
Tu vas devenir une légende pour les guerrieros.
Far Cry 6, c'est donc un jeu d'action à la première personne, très immersif. Je suis encore en train d'y jouer, c'est une vraie réussite, je prends beaucoup de plaisir, je dois le dire.
Alors, il y a une île des Caraïbes, il y a un dictateur, il y a une guérilla. C'est moi ou ça parle de Cuba sans en parler tout en parlant ?
C'est effectivement très, très inspiré de l'histoire de Cuba. Far Cry 6, c'est un jeu politique et c'est rare pour un jeu de ce calibre, un choix assumé pour une fois par Ubisoft qui a créé de A à Z un dictateur terrifiant, Anton Castillo. C'est le comédien Giancarlo Esposito qui lui prête ses traits, c'est de la motion capture. Alors le nom ne vous dit peut-être rien, mais il est célèbre pour avoir joué Gus Fring, l'un des méchants de la série Breaking Bad, et sa performance dans Far Cry 6 force l'admiration.
Notre peuple, ils ne savent pas comment être heureux. Ils sont divisés, palabres, indécision, opposition. Ils sont étouffés par leur propre liberté. Même si tu veux le meilleur pour eux, même si tu cherches à les sauver, ils te haïront, Diego. Tout ce que tu diras, feras, penseras, sera forcément mauvais.
Alors, c'est donc lui qu'il faut renverser avec notre groupe de guerrieros, des révolutionnaires bigarrés hein, qui se terrent dans la jungle de Yara, qui fabriquent leurs armes avec ce qu'ils trouvent. On peut par exemple fabriquer un lance-CD mortel. Ils sont peu nombreux, mais ils sont inventifs, ils ont des idées. Le but, c'est de pousser le peuple à l'insurrection. Pour ça, il faut faire vaciller le régime de Castillo en prenant le contrôle des checkpoints, en détruisant des canons anti-aériens ou encore en brûlant les champs de tabac qui sont la principale ressource du dictateur.
Alors, on l'a dit, c'est un jeu inspiré par Cuba. Est-ce que c'est réaliste, Clément ?
Alors, pas totalement. La façon de jouer reste assez simpliste. Hein. C'est un jeu vidéo. Le héros est capable de prendre d'assaut tout seul un camp adverse contrôlé par 25 soldats et il s'en sort indemne. Il y a pas mal d'énormités aussi dans le scénario, mais l'atmosphère de Far Cry 6 en revanche est très détaillée. L'île de Yara est magnifique. On dirait vraiment Cuba avec ses jungles touffues, ses villages de fermiers, ses voitures sorties des années 50, sa faune exotique. Moi, je me suis plongé dans le jeu avec délice. Et on a du mal à quitter le jeu quand on éteint la console. C'est une ambiance qui est très très travaillée, jusque dans la musique qui rythme les séquences du jeu, comme cette réinterprétation de l'hymne antifasciste italien Bella Ciao façon Buena Vista Social Club.
Pas mal,
c'est bien. C'est pas mal, non ?
Exactement, ouais. C'est ce qu'on disait. C'est
ça donne envie de danser.
Et les voix sont bien, Huster disait, les voix sont
magnifiques.
Et ça donne envie de danser. Moi, je trouve cette musique, ça peut paraître un peu décalé, parce qu'on parle quand même d'un jeu sur la guérilla, c'est pas très drôle, mais c'est justement la marque de fabrique de la série Far Cry. Un ton assez barjot, très surprenant, qui décale vraiment le joueur par rapport au contexte. Alors, ça rend cool la guérilla, on peut critiquer ce point de vue, hein, c'est un choix. Mais moi, je trouve que manette en main, ça vaut le coup. Ce Far Cry 6, c'est une petite bombe.
Merci beaucoup, Clément Le Saff. Ça vous a tenté ? Vous jouez aux jeux vidéo ou vos filles ?
Non, mes filles, mais moi, non. Non, je ne joue pas aux jeux vidéo, mais ça fait penser à tous les films américains. Bon, et puis au moins, ça évite justement mes filles qui regardaient la série, la Squid Game. Là, c'était terrifiant. Terrifiant, ça. Alors, bon.
C'est pas moins violent.
Attendez, le jeu vidéo Squid Game. Merci beaucoup, Clément Le Saff.
Ça va arriver évidemment. C'était votre dernière chronique ce matin. Je voulais vous dire que c'était un plaisir d'avoir travaillé avec vous, que vous parliez soit des jeux vidéo, soit des comics, soit des super-héros. Grand, grand plaisir d'avoir travaillé et croisé votre route. Belle route à vous.
Plaisir entièrement partagé. Philippe, je tenais encore vraiment à vous remercier, vous qui m'avez donné une chance incroyable de passer sur cette belle antenne, sur cette belle maison. Tous les gens qui ont fait cette émission aussi sont très nombreux. Je ne pourrai pas tous les citer, mais il y a Jérémy qui est là, il y a Alice, il y a eu Louise, il y a eu Magali. Ça a été un vrai bonheur de partager cette antenne avec vous, moi qui suis si jeune et qui ai eu une telle chance dès le début de ma carrière. Et voilà, je ne sais pas si j'aurai encore de si belles opportunités à l'avenir, mais celle-là est incroyable.
Il est fort,
il est fort. Vous avez quel âge ?
Incroyable.
J'ai 27 ans.
Vous n'allez pas vous arrêter en si bon
chemin. J'ai commencé extrêmement fort et j'en suis encore très très heureux et je garderai ça très chaudement au fond de mon cœur. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Clément Le Saffre et votre lance CD. Il n'est pas perdu, c'est Stéphanie Loire qui l'a récupéré. Elle va nous lancer des CD et des coups de cœur. On va parler musique. Francis Huster avec nous. Culture Média continue. Je suis un petit peu ému. Salut Clément Le Saffre.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
Stéphanie Loire en compagnie de Francis Huster et de Clément Le Saffre qui est encore dans ce studio. Stéphanie
Bonjour.
Loire qui a récupéré le lance CD. Et oui. Stéphanie, vous allez nous faire découvrir des artistes et nous présenter un coup de cœur. On commence par quoi ?
On commence par Boost 3000. Alors avant de développer Boost 3000, je tiens à m'excuser, mon outil de travail est cassé. J'ai une rhinopharyngite, mes M sont comme des B et j'ai une voix qui est à peu près au dixième de ses capacités.
Ouais.
Je m'en excuse. On commence avec... Il s'en fiche.
Excusez-moi, j'ai beaucoup de charme, et, comprenez, mais ma voix aujourd'hui, elle est vraiment veloutée.
C'est exactement ce que je voulais dire.
D'accord.
On a tous compris le sous-texte.
D'accord.
On commence par Boost 3000, un quintet toulousain soutenu par un label, lui aussi toulousain, nommé Pop Superette Records. Le premier album de Boost 3000 vient de sortir. Il est très justement intitulé « Quel album ?». À mon sens, il manque un point d'exclamation tellement c'est un bon album. C'est de la pop postillée, une chanson française qui donne envie de danser et d'embrasser l'existence avec enthousiasme, même un dimanche de pluie, en hangover, quand on a trop bu la veille. Ça fonctionne, j'ai essayé. On découvre un premier extrait, le titre « Chat et chien », une chanson à l'univers coloré et absurde.
Ma mamie me donne tellement de trucs, avec des chats dessus et même un vrai chat. Mais le plus intéressant, c'est quand même la tasse, l'oreiller, l'assiette, les manettes et la serviette.
Alors pour les inspirations, les références du collectif à l'univers de Philippe Catherine et d'Étienne Dao sont parfaitement assumées dans ce titre « Chien et chat ». Pour ceux qui ont eu la joie de porter des épaulettes en tapant 36-15 Ula sur un Minitel et donc de traverser les années 80, on pourrait y entendre une filiation avec le duo pop français Élie et Jacquenot.
Il y a un peu de ça
dans l'idée. Boost 3000 est formé par les membres d'un collectif artistique appelé le collectif Métier à tisser. C'est 5 têtes baroques dont 3 ont été formées en musicologie à l'université de la Ville Rose. La critique est sous le charme, ils ont été repérés notamment par Le Monde, louangé, je ne sais pas si ça se dit, par Étienne Dao.
Loué.
Loué, c'est mieux. L'avenir sent bon pour cette joyeuse bande. On écoute un autre extrait de Boost 3000 avec Bonjour Madame avant de passer à une autre découverte.
Bonjour Madame. Non, je n'ai pas entendu.
Ça vous plaît ça, Philippe ?
J'adore, parce qu'en plus ils jouent très très bien.
Ouais.
C'est faussement naïf, mais on sent que c'est des vrais musiciens. On peut les voir sur scène ?
Oui, il y a une tournée qui devrait être organisée à partir de la fin du mois de novembre. Alors leur médiatisation qui est assez récente, elle suscite l'intérêt des salles de concert. Ça va bouger, pour le moment on n'a pas encore les dates.
Autre découverte ?
Une découverte qui répond au nom de Gaël Faure. Il est auteur, compositeur, interprète, indépendant avec tout ce que ça représente d'engagement pour sa musique. Il nous présente un EP de 5 titres poétique, L'eau et la peau. Son single Tu risques quoi est une chanson qui s'écoute et qui se regarde aussi, puisque le clip raconte en noir et blanc l'histoire d'un couple âgé qui décide de s'évader de son EHPAD pour profiter une dernière fois de chaque instant. On commence par écouter sur Europe 1, vous regarderez le clip plus tard tranquille au bureau quand vous ferez semblant de travailler.
Fois. Croiser des couleurs nouvelles.
On suit ce couple en cavale dans sa quête du bonheur. On les voit s'enivrer, se baigner, nus, rire aux éclats, se droguer même. Ah. Un titre qui parle avec poésie de l'urgence de vivre. Il faut vivre, Philippe, on n'a pas le temps.
Oui.
On se fait un roller coaster après l'émission.
Mais dites ça au mec de 27 ans. Et puis, pas de rock dans vos crushs et dans vos découvertes.
Si, The Celtic Social Club, un groupe de rock celtique franco-britannique qui publie son 4e album studio, Dancing or Dying. Traduction, Philippe, puisque vous êtes bon en anglais.
Danser ou crever.
Exactement. Un disque qui mêle rock et ballade mélancolique, mais toujours imprégné de musique celte.
Ah oui.
Le titre s'appelle Self-Important Clown, un titre de l'album qui évoque un peu du Pink Floyd, mais passé à la moulinette celte.
Ah, disons, vous entendez du Pink Floyd là-dedans ? Moi, pas du tout.
C'est
hein.
Vrai
oh là là,
ou du
ouais,
Archive,
ouais.
Comme non, ça, Archive.
Non, je pense que c'est pas votre gorge qui va mal, c'est les oreilles.
Ça va pas, quoi.
Francis Huster, un titre vous a plu ? Un groupe vous a tenté ?
J'ai beaucoup aimé le premier.
Moi aussi.
Boost 3000 ?
Ouais, Boost voilà, 3000,
coup de cœur du jour.
Merci beaucoup,
merci.
Stéphanie Loire. À très très vite. Dernière partie de Culture Média, il y a également Marc-Antoine Lebray qui va débouler. À tout de suite avec Francis Huster.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Francis Huster qui publie coup sur coup deux livres, Poquelin contre Molière, c'est chez Armand Collin. C'est un dialogue imaginaire et puis un dictionnaire amoureux de Molière chez Plon. Dans Poquelin contre Molière, vous dites Shakespeare est le plus grand, non pas parce qu'il est le premier, parce qu'il est le seul. On écoute Corneille, on entend Racine, on ressent Shakespeare. Et Molière, au milieu de ces trois-là ?
Molière, c'est le premier des comédiens. Shakespeare était un poète.
Et alors, j'ai appris quelque chose. J'avais jamais vu les choses grâce, comme vous. Grâce à vous, j'ai découvert ça comme ça. Shakespeare, dites-vous, ce sont les quatuors. Molière, ce sont les duos. C'est dans le dictionnaire amoureux de Molière.
Oui, absolument. C'est-à-dire que Shakespeare, il y a toujours deux hommes, deux femmes, et qui sont en lien direct, comme un jeu de dames pour l'amour, qui va l'emporter. Alors que Molière, c'est vraiment le duo. Il a inventé le duo. D'ailleurs, Steve McQueen et Yul Brynner dans Les Sept Mercenaires, c'est du Molière. Dès qu'il y a un duo, c'est du Molière. Burt Lancaster et Gary Cooper dans Veracruz, c'est du Molière.
Vous le dites pas comme ça, mais vous le dites. Le sens, c'est ça. Ce fut le premier féministe. Les femmes ont un rôle très très important dans les pièces de Molière et l'affirmation des femmes chez Molière.
Elle est née chez Molière. C'est-à-dire que tout d'un coup, contrairement à la tragédie où elles pleurent, où elles s'effondrent, où elles sont des victimes, là, il y a une violence, il y a une révolte. Oui, oui, oui. Tous les personnages féminins de Molière sont sublimes et elles ont été volées par les metteurs en scène hommes pendant 4 siècles qui ont donné évidemment la primauté aux comédiens hommes pensant qu'ils étaient les héros de la pièce.
Volées de quelle manière ? Bah, moi, je ne me rends pas compte de ce qu'il y a dans la pièce par rapport au texte initial.
Et ben par exemple, Tartuffe, on a Orgon et Tartuffe, on pense que c'est les deux rôles principaux.
Ben oui.
Pas du tout. Le rôle principal de toute la pièce, c'est Elmire. Elle se bat contre Tartuffe. Tartuffe veut se la taper et elle réussit à le dénoncer, à lui tendre un piège. Pareil pour Elvire dans Don Juan. C'est elle, le rôle principal, qui vient dire et qui vient vraiment prendre Don Juan, lui disant « Tu vas être puni, le ciel va te punir », et puis elle revient encore pour le sauver. Toinette, Dorine, les personnages féminins, quand les metteurs en scène femmes s'empareront de Molière, et c'est ce qui va arriver avec la jeunesse, ils vont réinventer. Moi, je souhaite que justement que les jeunes recréent toute l'œuvre de Molière et la prennent à leur compte.
J'adore entendre ça, que Don Juan n'est pas le personnage principal de Don Juan. Rien que pour ça, je suis ravi de vous avoir invité ce matin, Francis Huster. Mince, 10h54. C'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Mais oui, parce qu'on ne pouvait pas continuer. Mais oui, on ne pouvait pas continuer. Avec Huster, il me restait genre 20-25 questions, tranquillou. Marc-Antoine Lebray, chaque jour, des stars viennent voir notre invité. Et ce matin, Michel Drucker est là pour vous, Francis Huster.
Merci, oui. Michel Drucker, vous êtes là pour moi.
Oui, Francis Huster, formidable. Julia Vignali, formidable. Mélanie Gomez, formidable. Philippe Vandel. Philippe Vandel, quoi. Moi, je suis venu spécialement pour les livres de Francis Huster. Je le connais bien en plus. Molière, hein. Francis, je ne le connais pas plus que ça. Molière, on était à l'école ensemble. Il était en CP quand j'étais en 3e. En tout cas, Francis, je vous le dis, ça me fait plaisir de voir que des petits jeunes comme vous continuent à s'intéresser à Molière.
Franck Ferrand s'est intéressé à votre biographie, Francis Huster.
Oui, alors c'est le 8 décembre de l'année 1947 que naît le talentueux, le génie Francis Huster, soit 2 ans après la fin de la guerre qui a vu la défaite des Allemands et 1 an jour pour jour après Gérard Rolls qui a surtout vu plein de défaites de tennisman français. Très tôt, Francis Huster devient devient un énorme fan de Molière et c'est là qu'on se dit que le destin de comédien est parfois, excusez-moi du mot, taquin, puisque Francis n'a jamais gagné de Molière. Bon, en même temps, ça fait un partout, étant donné que Molière, lui non plus, n'a jamais gagné de Francis Huster.
Et alors, on ne s'y attendait pas du tout, mais Nabila est venue ce matin pour vous, Francis.
Allô ? Non, mais quand on m'a demandé de venir parler de Molière, je me suis dit, mais j'ai pas grand-chose à dire, t'as vu ? À part qu'une fois, j'ai eu une carie sur une Molière. trop relou, quoi. Après, je suis habitué au conseil beauté. La dernière fois, on m'a parlé d'un livre de Racine et je donnais tous mes conseils, shampoing et teinture, t'as vu ? Non, mais quand ils m'ont dit que l'invité, c'est Francis Huster, moi j'ai dit « Ah, ok, quoi. Mais c'est qui, Francis Huster ? Il a fait quoi comme télé-réalité, le Quemé, les Marseillais à Cancun, les Ch'tis à Miami ? Excuse-moi, le yeuve, là. Tu sais à quelle heure il arrive, Francis Huster ? Non, que j'ai pas l'air d'une teubée quand il arrive et que je lui dise bonjour, quoi. Allô ?
Eh, blague à part, on n'est pas très loin. Capucine Anave avait expliqué que Molière, c'était chiant et vous avez défendu Capucine Anave.
Oui, absolument, je l'ai défendu parce que c'est la vérité quand on est jeune à l'école et qu'on doit justement remplir, copier dans des papiers, sur des passages de Molière et au lieu d'aller voir la pièce elle-même et de tomber fou amoureux du théâtre. Oui, je l'ai défendu et je crois que beaucoup de gens, finalement, ont pris son parti.
Voilà, et pour les yeux qui ne savent pas qui est Capucine Anave, c'est une ancienne candidate de télé-réalité. Merci.
Ouais, je connais.
Nabila, elle a le nom. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On serait avec la journaliste Linda Lorrain qui présente la quotidienne d'Arte Invitation au voyage. Et puis l'humoriste Arnaud de Samer pour son nouveau one-man show. Très bon titre. Deux mariages, un enterrement. Merci beaucoup, Francis Huster, d'avoir été avec nous. Je lance le programme. Julia Vignali et Mélanie Gomez, qui sont dans ce studio, vont enchaîner avec Bien fait pour vous, le programme aujourd'hui.
Eh bien, aujourd'hui, on va voir quels sont les conseils essentiels pour rester en bonne santé. On parlera pas du tout de Covid, parce qu'on en parle depuis un an et demi, mais on a toujours mal au dos, des problèmes de poids et d'autres problèmes de santé dont on parlera. Comment les éviter ? Ce sera un dossier en partenariat avec le Figaro Santé.
Et puis, on va parler aussi de la campagne lancée par l'Agence du médicament. Le slogan, c'est « Enceinte, les médicaments, c'est pas n'importe comment ». Donc voilà, on va conseiller les femmes enceintes dans leur prise
et les papas qui écoutent, les futurs papas
et
aussi,
ils sont là
pour les hommes.
On va penser au bébé à naître.
Voilà, on rejoint Molière, le médecin malgré lui. Merci d'avoir été avec nous, Francis Huster. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain.